Voilà, ce matin, je ne vous apprends rien si je vous dis que... Oh, il y a de la réverbe. Si je vous dis que certains passages de la Bible peuvent être mal compris. Une des raisons à cela est quand le texte est sorti de son contexte et est utilisé comme une parole qui existe par elle-même sans tenir compte ni du contexte, ni de l'intention de l'auteur. Une autre raison fréquente qui fait qu'un texte peut être mal compris est quand celui-ci est tout simplement mal interprété. Alors il y a beaucoup de raisons à cela, je ne vais pas les énumérer, ce n'est pas mon propos ce matin. Par contre, j'aimerais vous proposer ce matin de vous arrêter avec moi, de nous arrêter ensemble sur un de ces versets qui est assez souvent mal compris. Ah, je vois Judith qu'elle est là. Voilà, mal compris ou mal interprété. Je vous invite à découvrir ce verset avec moi dans la lecture qu'on va faire maintenant. Le texte va être projeté, vous pouvez le suivre dans votre Bible si vous le souhaitez. C'est le texte de la première épître de Jean au chapitre 2, verset... Alors, traditionnel petit... temps de flottement avec la télécommande. Tu peux recliquer sur... Oui, c'est bon. Voilà donc, je vous invite à le découvrir. Il s'agit du texte de 1 Jean 2, versets 15 à 17, et je vais le lire dans la traduction de la Nouvelle Bible Second. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, le désir de la chair, le désir des yeux, et la confiance présomptueuse en ses ressources, tout cela n'est pas du Père, mais du monde. Or, le monde passe, et son désir aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement, ou pour toujours. Ce passage, entre autres, a amené certains chrétiens à se replier sur eux-mêmes et à vivre une vie chrétienne constamment remplie de frustration dans leurs efforts à vivre le détachement total qu'ils comprennent, le détachement total du monde qu'ils comprennent dans ces versets. Mais de quoi est-il question dans ces versets de Jean ? Quel est ce monde que nous ne devons pas aimer ? Faut-il tout rejeter dans le monde ou pas ? Pour essayer de répondre à ces questions, commençons par dire quelques mots sur la première lettre de Jean, c'est-à-dire sur le contexte général de cette parole. Dans cette première épître, l'apôtre Jean s'adresse à des chrétiens qui sont troublés par l'enseignement de ceux qu'il appelle des faux prophètes, des prophètes de mensonges. Ils sont troublés et ils cherchent à influencer ces chrétiens à qui Jean écrit, et Jean écrit pour les encourager, pour les rassurer. Et pour les rassurer, Jean va leur donner trois tests dans cette épître, trois tests qui vont leur permettre de savoir s'ils connaissent véritablement Dieu et s'ils sont dans la foi véritable. Et il va revenir à plusieurs reprises dans cette épître sur ces trois mêmes tests. Au moment où il écrit ces versets, au chapitre 2, Jean a déjà abordé deux de ces tests, les deux premiers, qui sont l'obéissance et la foi. Comment savoir si je connais réellement Dieu ? Jean répond ceci, je connais réellement Dieu, premièrement, premier test, si je garde ses commandements, si je garde sa parole, c'est le premier test. Et puis, deuxième test, je connais réellement Dieu Dieu est réellement mon Père si j'aime mes frères et sœurs en Christ. C'est le test de l'amour. Je me suis trompé quand je vous ai dit que c'était le test de l'obéissance et de la foi, c'est l'obéissance et l'amour. La foi arrive ensuite. Justement, le troisième test que Jean va aborder ensuite, après notre texte, rapidement après, c'est le test de la foi, et il dit ceci: je connais réellement Dieu, je peux réellement appeler Dieu mon Père si je confesse que Jésus-Christ est mon Sauveur et Seigneur. Si je confesse que Jésus-Christ, que Jésus est le Christ. Entre le deuxième et le troisième test dans cet épître, Jean va faire une petite pause et il va ouvrir deux parenthèses. Notre texte est la deuxième parenthèse qu'il ouvre entre le deuxième et le troisième texte. Et dans cette parenthèse que nous avons lue, Jean a des choses à dire sur le monde et des choses à dire sur l'attitude des chrétiens et de l'Église vis-à-vis du monde. Voilà pour le contexte général. Passons maintenant au contexte immédiat. Que nous apprend-il ? Nous constatons que quand Jean ouvre cette deuxième parenthèse, il change le temps des verbes qu'il utilise. Il passe du temps du parfait à celui de l'impératif présent. L'impératif présent dans notre texte, c'est « n'aimez pas le monde ». Mais avant cela, il parlait au parfait. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'on pourrait en déduire ? Dans les versets 12 à 14, les versets qui précèdent notre passage, Jean a donc utilisé ce temps du passé, ce temps du parfait, pour chacune des six affirmations qu'il fait dans ces versets 12 à 14. Le temps du parfait, c'est un temps qui correspond à une action qui est passée, mais dont l'effet dure encore aujourd'hui. Autrement dit, c'est le résultat présent d'une action passée. Alors on prend un exemple, pour ne pas rester trop abstrait, juste un exemple au verset 12, que dit Jean à ceux à qui il écrit, il dit que leurs péchés ont été pardonnés. Ça, c'est le parfait. Ils ont été pardonnés. À un moment dans le passé, quelque chose s'est passé, les péchés ont été pardonnés, mais l'effet dure pour toujours. L'effet dure encore aujourd'hui. Les péchés ont été pardonnés et ils le sont encore aujourd'hui au moment où il s'adresse à eux. Alors la question qu'il faut se poser ici est celle-ci: pourquoi Jean change-t-il de ces verbes dans son texte alors qu'il était dans le parfait? Pourquoi passe-t-il à l'impératif présent? Et la réponse que je vous propose ce matin est celle-ci, que Jean fait cela sans doute pour signifier que s'il y a des choses qui sont acquises dans la vie chrétienne, des choses sur lesquelles on ne revient pas, c'est acquis, le pardon de nos péchés. Ce n'est pas quelque chose qui est en discussion en permanence, c'est une réalité. Et quand nos péchés ont été pardonnés, ils l'ont été pour toujours. Les bénédictions que nous avons en Christ, c'est quelque chose d'acquis sur lequel nous ne revenons pas. Mais s'il y a des choses qui sont acquises, il y en a d'autres que nous devons acquérir au fur et à mesure de notre marche chrétienne. Tout n'est pas acquis une fois pour toutes. Et dans la vie chrétienne, il y a des combats à mener et il y a des choix à faire. Si Jean veut rassurer ses lecteurs, c'est clairement l'intention de Jean dans cet épître, il ne veut cependant pas leur donner l'impression que tout est acquis d'avance. Et c'est la raison pour laquelle, au début de cette deuxième parenthèse, il passe à l'impératif présent. Il passe du parfait à l'impératif présent. Il y a des choses à faire dans la vie chrétienne, et Jean va cibler dans notre passage l'attitude que le chrétien, que l'Église doit avoir vis-à-vis du monde. Et il le fait avec cet impératif, ce commandement, n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Et Jean va baser ce commandement sur deux arguments dans notre texte. Premièrement, il les invite, il leur donne cette injonction de ne pas aimer le monde, premièrement parce que l'incompatibilité entre l'amour pour le monde, parce qu'il y a, pardon, incompatibilité entre l'amour pour le monde et l'amour pour le Père. Ça, c'est la première raison qu'il va donner dans notre texte. Et la deuxième, c'est le caractère éphémère du monde en opposition avec l'éternité de celui qui fait la volonté de Dieu. Je propose de considérer ces deux points ce matin et nous allons donc commencer par l'incompatibilité entre l'amour pour le monde et l'amour pour le Père. C'est essentiellement les versets 15 et 16. Mais avant de parler de cette incompatibilité, il faut que nous définissions ce mot « monde » que Jean utilise dans notre texte. Qu'est-ce que le monde dont il parle ? À quoi Jean fait-il référence quand il dit « n'aimez pas le monde » ? Notons premièrement que c'est la première mention du monde dans cet épître de Jean. Mais c'est de loin pas la dernière. Dans les trois versets là, qui nous intéressent ce matin, il en parle six fois. Ce mot revient à six reprises. Et dans l'ensemble de cette première épître, il y a une vingtaine d'occurrences. Pour bien comprendre notre texte, il est essentiel de bien comprendre ce sens, le sens de ce mot « monde ». Et il nous faut comprendre que dans la Bible, très souvent, et dans les écrits de Jean, de l'apôtre Jean en particulier, ce mot « monde » peut avoir plusieurs sens différents. En fait, le mot « monde » dans les écrits de Jean a quatre sens que l'on retrouve, soit dans l'évangile de Jean, soit dans la première, la deuxième et la troisième lettre de Jean. Le premier, c'est le sens de l'univers que Dieu a créé. Voilà. On peut utiliser le synonyme « le monde » pour parler de l'univers que le monde que Dieu a créé. On peut aussi, et Jean le fait dans ses écrits, parler du monde pour dire la terre, la planète sur laquelle nous vivons. Ou alors, troisième sens, l'humanité, les hommes, les humains qui sont sur cette terre. Et puis, quatrième sens dans Jean, les hommes dans leur opposition à Dieu et à son plan. Et dans ce sens-là, le monde est synonyme de ténèbres. Il est essentiel et il est important d'être attentif à ces différents sens dans la Bible en général, mais dans les écrits de Jean en particulier. Et pour que nous situions bien la difficulté, je vais prendre un exemple. Un exemple avec le texte très connu de Jean 3,16. Jean 3,16, où Jean nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a aimé le monde. Et puis là, maintenant, dans 1 Jean 2, verset 15, il nous dit « n'aimez pas le monde ». Comment comprendre cette apparente contradiction ? Est-ce qu'il y a contradiction ? Comment est-ce qu'il faut comprendre cela et comment est-ce qu'on peut résoudre cette difficulté ? En fait, il y a deux solutions pour résoudre cette difficulté. La première est de comprendre le mot « monde » dans ces deux textes différemment, avec les sens qui sont encore affichés. Et ainsi, dans Jean 3,16, il serait question du monde en tant qu'humanité, les hommes de ce monde. Et dans notre texte, il serait question du monde comme l'ensemble des forces qui est caractérisé par le péché et qui s'oppose à Dieu et à sa volonté. C'est notre quatrième proposition à l'écran. Ça, c'est une façon de comprendre cette apparente contradiction entre ces deux textes. Et puis, la deuxième solution, je ne vais pas m'étendre, mais c'est de comprendre les verbes « aimer » différemment. Dieu a aimé le monde, Jean 3,16, c'est l'amour de la rédemption qui a pour but de sauver le pécheur qui met sa foi en Christ. Et puis ici, c'est l'amour égoïste de celui qui veut jouir du péché. On est donc là sur deux définitions différentes de l'amour. Ces quelques exemples, je ne m'étends pas plus, nous rappellent que les mots ont un sens et qu'il faut déterminer. Il faut déterminer ce sens et en particulier, c'est vrai dans notre vie de tous les jours et c'est vrai en particulier quand nous sommes devant le texte biblique. On ne peut pas faire dire n'importe quoi, les mots ont un sens. Et il faut essayer de déterminer le sens voulu par l'auteur au moment où il écrit le passage qui nous intéresse. Donc revenons à notre texte. Quel est le sens du mot « monde » dans notre passage ? Je suggère que le mot « monde » dans notre passage a le sens des hommes dans leur opposition à Dieu et à son plan. Les hommes dans son opposition, dans leur opposition à Dieu et à son plan, c'est-à-dire le sens de tout ce qui s'oppose à Dieu et qui est caractérisé par le péché. Le monde comme tout ce qui s'oppose à Dieu et qui est caractérisé par le péché. C'est le sens que Jean va donner au monde un petit peu plus loin. Là, c'est indéniable, le contexte immédiat nous renseigne tout de suite. C'est au chapitre 5, verset 19. Je vous l'ai mis dans la traduction de la Nouvelle Bible en français courant et puis dans la traduction de la Semeur. Nous savons que nous appartenons à Dieu et que le monde entier, l'ensemble de ses forces opposées à Dieu, est au pouvoir du mauvais. Et dans la Bible du semeur, est sous la coupe du diable. Voilà, selon moi, le sens du mot « monde » dans notre passage. C'est ce monde-là, ce monde qui s'oppose à Dieu, qui s'oppose à la volonté de Dieu, et ce monde-là seulement, que Jean demande à ses lecteurs de ne pas aimer. Ce monde et ce monde-là seulement. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il n'est pas question ici d'instaurer une espèce de barrière totalement étanche entre moi et le monde. Ce n'est pas de cela dont il est question ici. Nous partageons l'humanité des hommes et des femmes de ce monde. Ce que nous ne partageons pas et que nous sommes appelés à rejeter, c'est tout ce qui s'oppose à Dieu et à Christ dans le monde, tout ce qui veut nous entraîner loin de la volonté de Dieu. Voilà ce que nous devons ou ce que nous ne devons pas aimer. C'est pourquoi nous devons et nous pouvons vivre dans le monde, pleinement vivre dans le monde. Nous pouvons jouir de la création de Dieu et de tout ce qui est bon dans le monde. En effet, il y a dans le monde que Dieu a créé de belles et de bonnes choses qui peuvent être l'objet de notre amour et de notre plaisir. Dieu d'ailleurs prend plaisir à ce que nous jouissions de sa création. Par contre, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous démarquer de tout ce qui, dans le monde, est en opposition à Dieu et à Christ. Après avoir défini le sens du mot « monde » dans notre texte, nous arrivons maintenant à la première raison que Jean donne de ne pas aimer le monde. Pourquoi est-ce que je ne dois pas aimer le monde ? Jean répond au verset 15, « Je ne dois pas aimer le monde parce que si j'aime le monde tel que nous venons de le définir, parce que si j'aime le monde, l'amour du Père n'est pas en moi. » Il y a incompatibilité entre mon amour pour Dieu et mon amour pour le monde, pour ce monde qui s'oppose à Dieu. Les deux ne peuvent pas cohabiter en moi, c'est l'un ou l'autre. Un peu comme Jésus le dira de Mammon dans l'Évangile, hein, on ne peut servir deux maîtres. Je ne peux pas aimer Dieu et aimer ce qui s'oppose à Dieu au même temps. Ce n'est pas possible. L'apôtre Jacques, dans son épître, a un texte très explicite à ce sujet. Jacques 4, verset 4. « Ne savez-vous pas qu'aimer le monde, c'est haïr Dieu ? Si donc quelqu'un veut être l'ami du monde, il se fait l'ennemi de Dieu. » Le raisonnement de Jean et de Jacques est limpide. Je ne peux pas à la fois aimer Dieu et aimer le monde qui est opposé à Dieu. C'est une impossibilité. Et c'est donc la raison pour laquelle Jean dit que si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père ne peut pas être en lui, n'est pas en lui. Et puis au verset 16, Jean poursuit son raisonnement. Si les deux amours s'excluent mutuellement, cet amour pour Dieu et cet amour pour le monde, c'est parce que ce qui est dans le monde, précise Jean, et il dit tout ce qui est dans le monde, ne vient pas de Dieu, mais du monde. Et comme nous l'avons vu, il ajoutera même plus tard, au chapitre 5, verset 17, que ce monde-là est au pouvoir du malin, du mauvais. Pour que nous comprenions bien sa pensée, enfin pour que les lecteurs de Jean comprennent bien sa pensée, et nous aussi, l'apôtre va expliciter maintenant ce qu'il entend par tout ce qui est dans le monde. Verset 16, car tout ce qui est dans le monde, et il va dire de quoi il s'agit. Il va expliciter donc tout ce qui est dans le monde, qui n'est donc pas du Père, et que nous devons rejeter. Et que dit-il ? Il parle du désir de la chair, il parle du désir des yeux, et il parle de la confiance présomptueuse dans les ressources du monde. On va les prendre l'un après l'autre. La première, donc, des choses incompatibles avec l'amour pour le Père, cet amour en nous, c'est le désir de la chair. Qu'est-ce que le désir ou la convoitise de la chair ? Notons tout d'abord que la chair, dans notre texte, et très souvent dans la Bible, n'est pas synonyme de corps, de viande, hein, si vous voulez, de notre corps. Mais en réalité, c'est un mot technique. C'est un mot technique qui représente la nature humaine pécheresse que nous avons héritée d'Adam et dont les désirs sont contraires à Dieu. Vous voyez, c'est un peu long, c'est plus facile de dire la chair. Sauf que quand on dit la chair, on risque de se tromper sur ce que ça veut vraiment dire. La nature humaine pécheresse héritée d'Adam, dont les désirs sont contraires à Dieu. Voilà la chair qui est en nous. Et d'ailleurs, la Bible du Semeur, qui traduit le sens plutôt que les mots, le traduit ici d'une manière qui nous aide quand elle dit « Ce sont les mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même. » Ce sont les mauvais désirs qui animent l'homme sans Dieu. L'homme qui n'a pas Dieu, qui est livré à lui-même, a des désirs qui sont contraires à Dieu. Ça, c'est la chair. Et ce désir de la chair que nous connaissons tous parce qu'il est en chacun de nous, ces mauvais désirs sont incompatibles avec l'amour pour Dieu, notre amour pour Dieu. Ces désirs-là ne viennent pas du Père, mais du monde, dit Jean, c'est-à-dire de tout ce qui s'oppose à Dieu, c'est-à-dire de la réalité de ces forces qui sont dans l'opposition à Dieu et qui œuvrent en moi par ma nature pécheresse. Et c'est pourquoi, en tant que chrétiens, nous devons rejeter ces choses, ces désirs qui cherchent à nous entraîner loin de la volonté de Dieu. Nous devons y résister sans cesse, de toute notre force, en comptant bien évidemment sur l'aide, sur le secours de Dieu par son Esprit en nous. Mais que faire quand nous n'y arrivons pas? Parce que parfois nous n'y arrivons pas, n'est-ce pas? Que faire quand nous avons failli? Que faire quand nos actions, nos paroles, nos pensées sont contraires à Dieu et à notre amour pour Dieu? Que faire quand nous avons désiré quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu? Jean va donner la réponse dans cette première épître. Et il va la donner à la fin du chapitre 1, c'est-à-dire un petit peu avant notre texte, et au début du chapitre 2. C'est tellement beau qu'on va le lire. C'est tellement fondamental. Si nous reconnaissons nos péchés, il est juste et digne de confiance. Il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute injustice. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de lui un menteur et sa parole n'est pas en nous. Mes enfants, je vous écris cela pour que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un vient à pécher, nous avons un défenseur, un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, qui est juste. Il est lui-même l'expiation pour nos péchés, non pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Que faire quand nous avons failli? Jean dit que si nous nous repentons de nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout le mal que nous avons commis. La réponse, c'est la repentance. La réponse, c'est l'assurance du pardon que Dieu nous accorde en Jésus-Christ. C'est une grâce merveilleuse que la grâce de Dieu manifestée en Jésus. La deuxième chose incompatible avec l'amour pour le Père en nous, c'est le désir ou la convoitise des yeux. Qu'est-ce que le désir des yeux? Si la convoitise de la chair indique les tentations qui sont à l'intérieur de nous, qui nous assaillent de l'intérieur, la convoitise ou le désir des yeux indique ces tentations qui nous assaillent de l'extérieur. Quelques exemples bibliques. Chacun pourra mettre ses propres exemples. Le désir des yeux, c'est tout d'abord le regard d'Ève dans le jardin d'Éden pour l'arbre défendu. Il est dit que c'était un délice pour les yeux. C'est un petit peu plus tard, lors de la conquête du pays de Canaan, le regard d'Achan pour un beau manteau babylonien qui était là dans le butin et qu'il convoitait pour lui-même alors que c'était voué à l'Éternel. Le désir des yeux, c'est encore le regard de David quand il était roi sur sa terrasse un soir pour Bathsheba qui, un petit peu plus loin, prenait son bain. Voilà quelques exemples bien connus de la convoitise des yeux. Cette convoitise, ce désir des yeux, c'est donc ce qui est en dehors de nous, qui est contraire à Dieu et que nous désirons malgré tout pour nous-mêmes. Que nous désirons malgré tout pour nous-mêmes. La Bible du Semeur traduit que c'est la soif de posséder ceux qui attirent les regards. La soif de posséder ce qui attire les regards. Et ce désir, cette soif est incompatible avec notre amour pour Dieu. Ce désir ne vient pas du Père, dit Jean. Il vient du monde. Il vient de tout ce qui dans le monde s'oppose à Dieu. C'est pourquoi en tant que chrétiens, nous devons rejeter ces choses, ces désirs, y résister sans cesse de toute notre force en comptant sur le secours de l'Esprit-Saint. Et que faire quand nous n'y arrivons pas? parce que nous n'y arrivons pas toujours? Que faire quand nous avons failli? Que faire quand nous avons désiré pour nous ce qui est mauvais pour nous et ce qui est en dehors de la volonté de Dieu? La réponse est la même que pour le désir de la chair, c'est la repentance et c'est l'assurance du pardon de Dieu. Oui, si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute injustice. Quelle grâce! Une grâce qu'il serait bien dommage de se priver. Une grâce qui engendre en nous la paix de Dieu et la paix avec Dieu. Il reste le troisième point, la troisième chose incompatible avec l'amour pour le Père en nous, c'est la confiance présomptueuse dans les ressources du monde. Ça, c'est un petit peu travaillé comme formulation. Dans les traductions plus anciennes, il était question de l'orgueil de la vie. Ça ne nous éclairait pas beaucoup quand même, l'orgueil de la vie. C'est vrai que ce n'est pas facile à comprendre. C'est plus facile à comprendre quand même la confiance présomptueuse dans les ressources du monde. John Stott propose la définition suivante. Il dit « L'orgueil de la vie, c'est une arrogance ou vaine gloire relative aux circonstances extérieures de quelqu'un, soit richesse, rang ou vêtement. » Autrement dit, cet orgueil, cette suffisance, cette arrogance, c'est ce que l'on tire des circonstances de sa vie. Par exemple, de la réussite matérielle, par exemple, du statut social. On s'enorgueillit de ça au point qu'on n'a plus besoin de Dieu. C'est la confiance présomptueuse dans les ressources du monde. Et la traduction de Semeur est éclairante une fois de plus. Il est question de l'orgueil qu'inspirent les biens matériels. L'orgueil qu'inspirent les biens matériels. Et nous savons que cet orgueil se traduit bien souvent dans la vie par une assurance en soi plutôt que par une assurance ou une confiance en Dieu. L'orgueil de la vie, la confiance présomptueuse dans les ressources du monde est incompatible avec l'amour pour Dieu. Et nous devons, là encore, le rejeter et choisir d'aimer Dieu et choisir de mettre notre confiance en lui et en lui seul. Et là encore, que faire quand nous n'y arrivons pas, quand nous avons failli? La réponse est toujours la même, c'est notre repentance. Et c'est l'assurance du pardon de Dieu. Oui, si nous reconnaissons nos péchés, si nous reconnaissons que nous avons raté la cible, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute injustice. Ça, c'était la première raison. La deuxième, je vais simplement esquisser rapidement deux, trois choses. La première, donc, que nous venons de passer en détail, c'était l'incompatibilité entre l'amour pour le monde et l'amour pour Dieu. Et puis là, la deuxième raison que Jean donne dans ce texte, c'est le caractère éphémère du monde en opposition avec l'éternité de celui qui fait la volonté de Dieu. Et c'est ce que Jean dit au verset 17. Quand il dit « Or, le monde passe, ce monde qui s'oppose à Dieu ». Il n'est pas éternel, il passe, il est en train de passer. Le monde passe et son désir aussi. Tout ce qui s'oppose à Dieu va disparaître un jour. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. Pourquoi faire le choix d'aimer Dieu et de ne pas aimer le monde qui s'oppose à Dieu? Parce qu'aimer le monde, dit Jean, c'est aimer ce qui ne dure pas. C'est aimer ce qui n'a pas d'avenir. C'est aimer ce qui est déjà condamné, qui est en train de passer et qui un jour ne sera plus. Le monde passe, dit Jean, et son désir aussi. Par contre, aimer Dieu, c'est aimer ce qui dure, c'est aimer ce qui a de l'avenir. Celui qui fait la volonté de Dieu, dit Jean, demeure éternellement, demeure pour toujours. La deuxième raison donnée par Jean de ne pas aimer le monde, je ne vais pas développer plus, c'est que le monde est éphémère et il est en train de passer, alors que l'éternité est en Dieu. C'est en Dieu qu'est l'avenir. Je ne sais pas si quelqu'un en doute, mais c'est ce que la Bible nous dit, c'est en Dieu qu'est l'avenir, et cet avenir en Dieu est radieux et éternel. Oui, aimer Dieu, c'est investir pour l'éternité. C'est investir dans ce qui dure et dans ce qui a un avenir. Et c'est en réalité le seul choix sensé à faire. Le seul choix sensé à faire à la lumière de ce que Dieu dit et à la lumière de ce monde qui passe. Par contre, aimer le monde, c'est investir dans ce qui ne dure pas. Parce que on n'a pas le temps de regarder tout ça, mais Dieu va juger le monde. Ce monde sera renouvelé. C'est donc un choix insensé que d'aimer ce monde-là. Alors oui, il y a une satisfaction immédiate, mais c'est tout ce qu'on a. Parce que par la suite, on n'aura pas grand-chose. Chers amis, la parole que nous avons considérée ce matin est une parole forte. Elle est forte quand on la comprend de travers, mais elle est forte quand on la comprend bien. Elle est aussi forte quand on la comprend bien. Et elle met devant nous, si nous sommes enfants de Dieu, la nécessité pour nous de vivre une vie de foi cohérente avec ce que nous professons et avec ce que nous sommes devenus en Jésus-Christ. Si nous aimons Dieu, alors nous ne pouvons pas, nous ne devons pas, dit Jean, aimer ce qui est opposé à Dieu. C'est facile en théorie. C'est un petit peu plus compliqué dans la pratique. La réalité, c'est que ce n'est pas toujours facile à vivre, nous le savons, pas toujours facile d'y arriver, parce que si nous sommes enfants de Dieu, nous n'en sommes pas moins encore pécheurs. Et donc il y a en nous ce combat en permanence entre le désir de suivre la chair et le désir de suivre l'Esprit de Dieu en nous, qui veut nous faire entrer dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas facile, et parfois nous n'y arrivons pas. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne nous a pas mis dans une impasse. Dieu ne nous a pas mis devant une équation impossible à résoudre. Dieu a pourvu dans sa grâce pour chacun de nos manquements. Bien évidemment, pas pour que nous abusions de sa grâce. Ce qui montrerait que nous n'avons pas compris, pas saisi ce qu'est la grâce de Dieu. Donc, pas pour que nous abusions de sa grâce, en ne faisant pas les efforts que nous devrions faire, mais pour que quand nous n'y arrivons pas, après avoir essayé, nous ayons l'assurance que Dieu va nous pardonner nos péchés, si nous les confessons. Si nous venons à lui, quelle grâce! C'est gratuit, c'est offert par Dieu et c'est complètement immérité. Alors, chers frères et sœurs, avec l'aide de Dieu, continuons à faire tous nos efforts, ne baissons pas les bras, persévérons dans notre désir d'aimer Dieu de tout notre cœur. Parce que c'est de cela dont on parle. D'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force. de toute notre pensée. Ce sera la meilleure manière pour nous de parvenir à ne pas aimer le monde, à ne pas aimer ce que Dieu n'aime pas. Amen.